Jean 16, 13. Dieu avait créé l'homme à son image, afin qu'en devenant semblable à lui, il pût partager sa gloire. Pour devenir semblable à Dieu, l'homme dans le paradis pouvait choisir entre deux voies, qui symbolisent l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie lui offrait la voie prescrite par Dieu. La vie fut douée de connaissance et lui amenait à ressembler à Dieu. En voulant la volonté de Dieu, en participant à la vie de Dieu, il serait devenu parfait. Satan lui indiqua l'autre voie, lui assurant que la connaissance était avant tout désirable pour devenir semblable à Dieu. Quand l'homme préféra la connaissance à l'obéissance, il entra dans la redoutable voie qui conduit à la mort. Le désir de savoir s'empara de lui et corrompit sa nature entière, il sacrifia à la connaissance l'obéissance et la vie. Encore à présent la race humaine continue à se fourvoyer, à chercher le bonheur dans la connaissance, et c'est dans le domaine religieux, surtout que l'homme subit l'empire de cette funeste illusion. Même lorsqu'il reçoit l'écriture, par laquelle Dieu se révèle à lui, c'est toujours avec un alliage de sagesse charnelle qu'il l'étudie. La vérité divine est dépouillée de sa force, quand l'intelligence humaine s'en saisit sans le secours de l'esprit, tandis que si elle pénètre dans son esprit, comme Dieu le veut, elle devient sa vie. Quand notre Seigneur promet à ses disciples le Saint-Esprit, il l'appelle l'Esprit de vérité. Jean 16, 3. Cette vérité qui est Jésus lui-même, se trouve dans l'Esprit de Dieu. Ce n'est donc plus du dehors que l'Esprit nous parle, mais c'est en habitant, en nous qu'il nous révèle Christ, et tout ce que Christ est pour nous. Ce Christ qui n'avait guère été jusque-là qu'une pensée, qu'un sauveur en dehors de nous et bien au-dessus de nous, nous devient alors une réalité, il devient vérité en nous. Quand l'Esprit entre en nous, la vérité entre avec lui, et après avoir pris possession de nous à l'intérieur, il nous conduit dans toute la vérité. Lorsque notre Seigneur nous promet l'Esprit de vérité, il précise ce que l'Esprit devait faire en nous, il rendra témoignage de moi. Jésus venait de dire « Je suis la vérité » Jean 14, 6. L'Esprit de vérité a donc pour mission de nous révéler et de nous communiquer la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. Il nous est envoyé du ciel, par Jésus glorifié pour rendre témoignage en nous et par nous de la vérité et de l'efficace de la rédemption accomplie par Christ. Il donnera vie et réalité à notre connaissance de Christ, il nous fera éprouver sa puissance pour agir et pour sauver. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est donc une grande docilité qui caractérise l'Esprit de vérité. Rien de plus admirable dans le mystère de la Sainte Trinité que cette subordination parfaite de la part du Fils et de l'Esprit, malgré la divine égalité, qui les unit au Père. Le Fils a pu réclamer à bon droit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père Jean 5, 23, et pourtant il ne croit pas déroger en disant « le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Ce que j'ai entendu de lui, je le dis Jean 5, 19, 8, 26. Il en est de même aussi de l'Esprit de vérité, jamais il ne parlera de lui-même. C'est là aussi la disposition d'esprit qu'il inspire à ceux qui le reçoivent. De jour en jour l'Esprit de vérité reçoit toute chose de Dieu, il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Imitons-le. Apprenons que pour nous approcher de Dieu la première chose à faire est de nous reconnaître incapables de comprendre ses paroles, de le prier ou de l'adorer sans l'intervention directe du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens ne se contentent pas de renoncer à leur propre justice mais qu'ils renoncent encore à leur propre sagesse, et c'est là ce qui leur est souvent le plus difficile. Ô mon Père, que l'Esprit de ton Fils, l'Esprit de vérité, soit réellement ma vie. Que par lui chacune des promesses de ton Fils se vérifie pour moi. Je te rends grâce, ô mon Père, de ce qu'il demeure en moi. À genoux je te demande que selon les richesses de ta gloire, il agisse avec puissance en moi et en tous tes saints. Oh, que ton peuple tout entier apprenne à connaître ce privilège naissé et à s'en réjouir, à croire que le Saint-Esprit vient nous révéler la présence de Christ plein de grâce et de vérité. Amen. L'Esprit envoyé par Jésus. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra point à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, c'est en quittant ce monde, notre Seigneur promet à ses disciples que son départ leur sera avantageux, que le Consolateur viendra le remplacer, et qu'il fera plus pour eux que ne pouvait faire sa présence corporelle. Ses rapports avec eux n'avaient guère été qu'extérieurs, et par conséquent n'avaient pas amener tout ce qu'on aurait pu en attendre, tandis que l'Esprit viendrait en eux, habiterait en eux, leur apportant ainsi la présence de Jésus, qui serait leur vie et leur force. Tant que le chrétien ne recherche que ce qui lui est agréable et facile, il ne comprend pas qu'il lui soit avantageux de ne plus avoir Christ sur la terre, mais aussitôt que sans s'arrêter aux difficultés et aux sacrifices, il désire sincèrement être transformé à la ressemblance de Dieu, refléter l'image du Fils premier-né, et plaire en toutes choses au Père, il pense avec bonheur et gratitude au départ de Jésus, puisque c'est à cette condition-là que l'Esprit de Christ peut à présent devenir son esprit et le faire vivre de la vie à la fois. C'est par la foi, par une foi qui vient de l'Esprit, de sa présence et de sa vie en nous que nous pouvons réaliser la présence de Jésus. Mais comment se fait-il donc que les croyants qui ont l'Esprit en eux n'éprouvent pas davantage sa puissance? C'est parce qu'ils ne connaissent guère, qu'ils n'honorent guère l'Esprit qui est en eux. Ils ont beaucoup de foi en Jésus sur la croix ou en Jésus sur son trône dans le ciel, mais ils n'ont que peu de foi en Jésus demeurant en eux par son Esprit. Ce qui leur manque encore, c'est de croire à l'accomplissement de cette promesse qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Si nous voulons avoir la véritable foi du cœur, regardons au-dedans de nous et avec humilité, attendons du Saint-Esprit qu'il fasse là son œuvre en nous. Mettons aux pieds de Jésus toute volonté, toute sagesse propre et là, attendons tranquillement avec foi. Nous acquérons ainsi la certitude que l'Esprit est en nous, que sa vie divine se développe au-dedans de nous. Si nous l'honorons ainsi, si nous renonçons à agir par nous-mêmes pour compter sur lui, il ne nous laissera pas confus, il fera réellement son œuvre en nous. Il fortifiera d'une force nouvelle notre vie intérieure, il nous donnera une foi vivante, il nous révélera la présence de Jésus. Amen. Ce que les disciples connaissaient de Jésus, sur la terre, leur paraissait si béni et si divin, qu'ils ne pouvaient se figurer rien de mieux. Ce n'est donc qu'avec douleur qu'ils pensaient à la possibilité de perdre celui qu'ils savaient être venu de Dieu. Un grand nombre de chrétiens évangéliques doivent aussi renoncer aux idées qu'ils se sont faites de Christ s'ils veulent qu'il se révèle à eux par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je vous dis que je m'en vais, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 16, 6, 7. On ne peut bien comprendre ces mots qu'en en faisant soi-même l'expérience. Il faut que la connaissance extérieure que nous avons de Christ, ainsi que la vie d'effort et de chute qui l'accompagne fasse place à la présence même de l'Esprit qui demeure en nous. Voici la règle à suivre pour parvenir au royaume de Dieu, par la mort à la vie, tout perdre pour tout gagner. Le grand obstacle qui arrête les chrétiens, c'est leur confiance en l'orthodoxie, en leur science religieuse. Ah ! Disent-ils, si nous pouvions seulement être plus sérieux et plus fidèles. Remarquons que ce n'est pas là la marche que durent suivre les disciples, de nouveaux efforts pour être plus sérieux et plus fidèles au service d'un tel maître ne les eût amenés qu'à de nouvelles chutes. Il fallait qu'eux aussi, les disciples fidèles, en vinssent à abandonner leur ancienne manière de connaître Christ pour recevoir une vie toute nouvelle de communion avec lui. Oh ! Puissent les chrétiens ouvrir les yeux sur le moyen infaillible de vivre d'une vie sainte, sur la nécessité de posséder au-dedans de l'Esprit de Christ qui leur révélera, leur assurera la présence du Seigneur et de sa force. L'Esprit glorifiant Dieu, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est, à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 7, 14. L'Écriture nous dit que le Fils de l'homme est glorifié de deux manières, par le Père dans le ciel, par l'Esprit sur la terre, en Dieu lui-même là-haut, en nous ici-bas. Quand Jésus nous parle de sa glorification dans le ciel, il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. » Jean 17, 2, 5. Quand il nous parle de sa glorification sur la terre, il nous dit « Je suis glorifié en eux. » Jean 17, 10. Glorifier un objet, c'est en révéler la valeur et l'excellence cachées. Jésus, le Fils de l'homme, fut glorifié lorsque sa nature humaine fut admise à participer à la puissance et à la gloire divine dans le ciel. Il entra ainsi dans toute la vie spirituelle du monde céleste et de l'être divin, et alors tous les anges l'adorèrent, lui, l'agneau sur le trône. L'Esprit de gloire vient nous révéler la gloire de Christ en demeurant et en agissant en nous par le moyen de la vie de puissance et de gloire qui est actuellement celle de Christ. Et tout en nous la révélant ainsi à nous-mêmes, il la révèle aussi en nous à tous ceux qui ont des yeux pour la discerner. Le Fils ne cherche point sa propre gloire. Jean 8, 50. Dans les cieux c'est le Père qui le glorifie, et sur la terre c'est l'Esprit qui le glorifie dans notre cœur. Pour que l'Esprit pût ainsi glorifier Christ, il fallait d'abord que Christ quitte ses disciples. Ceux-ci ne pouvaient pas le posséder à la fois en chair et en esprit, sa présence corporelle faisait obstacle à sa présence spirituelle. Ils durent donc être séparés du Christ qu'ils avaient eu avec eux pour pouvoir recevoir en eux par le Saint-Esprit le Christ glorifié. Christ lui-même a dû abandonner la vie qu'il avait ici-bas pour pouvoir être glorifié soit dans les cieux, soit en nous. Il vous est avantageux que je m'en aille? Comme les premiers disciples, beaucoup de chrétiens ont cru en Jésus, ils l'aiment et lui obéissent, ils ont éprouvé en quelque mesure tout le bonheur qu'il y a à le connaître et à le suivre, néanmoins ils ne possèdent pas encore l'inexprimable puissance divine qui devait résulter, selon les promesses de l'Écriture, de la présence de Christ en eux. Que de promesses non accomplies pour eux, que d'aspirations non satisfaites. C'est parce qu'ils n'ont pas encore pleinement saisi cette promesse, le Consolateur demeure avec vous, il sera en vous. Jean 14, 17. Que signifie-t-elle donc, cette promesse, c'est l'Esprit, qui me glorifiera? Qu'est-elle donc, cette gloire de Christ que doit nous révéler l'Esprit? Et comment nous la révèle-t-il? En élevant Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, le Père a mis toutes choses sous ses pieds. Il lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Philippiens 2, 9, 10. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, 13. Voilà donc comment Jésus est glorifié au ciel, c'est en siégeant sur le trône de la gloire de Dieu, ayant toutes choses sous ses pieds. Éphésiens 1, 20-23. Quand le Saint-Esprit vient glorifier Jésus en nous, c'est sous cet aspect-là qu'il nous révèle sa gloire, il prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Il vient nous faire voir Christ en nous, car c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons toute notion vivante, toute connaissance véritable de Christ. Quand Christ entre en nous comme un faible nouveau-né, quand il se développe et grandit et qu'il est formé en nous, Galates 4, 19, quand nous apprenons à nous confier en lui, à lui obéir et à le servir, tout cela est déjà l'œuvre du Saint-Esprit. Toute force propre doit mourir, toute pensée devenir captive, tout doit obéir à Christ, pour que de notre nature, ainsi renouvelée, s'élève ce chant de louange gloire à celui qui est assis sur le trône. Apocalypse 5, 13. C'est au disciple obéissant, et qui aime son maître que Jésus promet la présence de l'Esprit, c'est en celui-là que l'Esprit vient glorifier Christ. Quand la foi est vivante, l'Esprit du Christ glorifié entre avec puissance et lui-même habite dans le cœur. Amen. L'Esprit convaincant de péché. Si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Jean 16, 7, 8. On ne remarque pas toujours le rapport intime qui lie ces deux paroles de notre Seigneur? Si les disciples devaient être baptisés du Saint-Esprit et de feu et recevoir la puissance d'en haut, c'était pour qu'ils devinssent des instruments au moyen desquels le Saint-Esprit put atteindre le monde. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu venant directement du ciel, mais le Saint-Esprit demeurant dans l'Église qui doit convaincre le monde. Je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. C'est donc en nous et par nous que l'Esprit doit atteindre le monde. Nous voyons ensuite que ce n'est qu'en nous amenant à être parfaitement d'accord avec lui, que l'Esprit peut se servir de nous pour en atteindre d'autres. Cependant, ces paroles signifient plus encore pour que l'Esprit puisse convaincre le monde par notre témoignage, soit par nos paroles, soit par notre conduite, il faut qu'il commence par nous convaincre nous-mêmes du péché du monde. Il faut qu'il nous donne une si forte conviction de son incrédulité, qui a rejeté le Sauveur, une si forte conviction, que tous ses péchés viennent de ce péché-là, que nous en venions en quelque sorte à voir le péché comme l'Esprit le voit. Alors nous serons prêts à être employés par l'Esprit, d'accord avec lui, nous témoignerons contre le péché, et c'est là ce qui atteindra la conscience, ce qui convaincra le monde avec force, la force qui vient d'en haut. Oh ! Que Dieu donne à ses enfants une véritable et profonde conviction du péché du monde, de son péché principal, celui d'avoir rejeté Christ. L'Esprit pourra alors se servir d'eux pour convaincre le monde de péché. 3. Pour obtenir cette conviction de péché, il ne suffit pas de la demander à Dieu, il faut encore que le croyant se mette entièrement sous la direction du Saint-Esprit. En prononçant ces paroles d'une portée sans limite, il sera en vous Jean 14, 17, notre Seigneur nous a ouvert les trésors de lumière, de sainteté et de force que nous apporte l'Esprit. L'Esprit est la vie même de Dieu, en entrant en nous, il devient notre vie, et c'est quand cette vie divine prend tout son empire en nous que l'Esprit peut agir à son gré. Que votre vie soit celle de l'Esprit, et aucune grâce ne vous sera refusée. Si vous voulez éprouver la profonde conviction du péché du monde et le sentiment intense de la redoutable puissance du péché, qui feront de vous l'homme dont Dieu pourra se servir pour convaincre les pécheurs, que toute votre vie, tout votre être se place sous la direction du Saint-Esprit. À mesure que la vie de l'Esprit deviendra plus forte en vous, vos yeux et votre cœur se feront une plus juste appréciation du péché qui vous entoure. Vos pensées et vos sentiments seront alors ceux de l'Esprit Saint en vous, une profonde horreur du péché, une foi vivante en la rédemption, un sérieux amour pour les âmes encore plongées dans le mal, le désir même de mourir, s'il le fallait, pour sauver les pécheurs, feront de vous l'instrument dont l'Esprit pourra se servir pour convaincre le monde de péché. Encore un mot, puisque le but de ce livre est de nous faire trouver le moyen d'être remplis de l'Esprit, remarquons bien que c'est pour convaincre le monde de péché que l'Esprit vient demeurer en nous. Je vous l'enverrai et il convaincra le monde. Offrez-vous donc à lui pour sentir et porter les péchés de ceux qui vous entourent. Prenez à cœur les péchés du monde autant que les vôtres. Ne déshonore-t-il pas Dieu autant que les vôtres? Cherchez à être rempli du Saint-Esprit, non pour jouir égoïstement de sa présence, mais pour qu'il continue par vous l'œuvre que le Père accomplissait autrefois par Christ. C'est la vie des croyants, c'est leur abnégation et leur amour qui prouveront au monde que Christ est une réalité et qui le convaincront ainsi de péché et d'incrédulité. Attendre l'Esprit. Il leur recommanda d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Acte 1, 4. Dans la vie des saints hommes de l'Ancien Testament, le mot attendre est un de ceux qu'ils aiment à employer pour exprimer l'attitude de leur âme devant Dieu. Ils attendaient Dieu et s'attendaient à Dieu. L'Écriture nous parle de cette attente comme étant l'expérience du croyant « J'ai patiemment attendu l'Éternel ». Psaume 40, 2. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu. À présent que le Père s'est révélé par le Fils et que le Fils a accompli la rédemption, notre attente doit se concentrer principalement sur la grande promesse qui nous révèle l'amour du Père et la grâce du Fils réunis ensemble, sur le don du Saint-Esprit et son habitation en nous. Attendons-nous à l'Esprit Saint, à sa lumière, à sa puissance pour révéler en nous la présence du Père et du Fils pour nous sanctifier et accomplir lui-même en nous le service auquel nous appelle le Père et le Fils. Il leur recommanda d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné comme une possession dont nous puissions nous rendre maîtres pour en user à notre gré. Non, le Saint-Esprit nous est donné pour que ce soit lui que devienne notre maître et qui nous prenne sous sa direction. Ce n'est pas à nous de nous servir de lui, c'est à lui de se servir de nous. Tout ce que les disciples firent et éprouvèrent pendant ces 10 jours d'attente nous trace la voie à suivre, nous est le gage de la vie de l'Esprit dont nous devons vivre. La grâce d'être rempli de l'Esprit, telle que nous l'a promis le Père, nous est accordée en raison directe de ce qu'est notre attente. Ceci ne nous explique-t-il pas pourquoi tant de croyants ne reçoivent que si peu de la joie et de la puissance qu'apporte le Saint-Esprit? Jamais ils n'ont su l'attendre. Cette promesse, ils l'ont oui, ils en ont vivement désiré l'accomplissement, et l'ont demandé par de ferventes prières, ils ont senti douloureusement l'absence de cet hôte divin et en ont mené deuil, ils ont essayé de croire, essayé d'être remplis de l'Esprit, mais jamais ils n'ont su ce que c'était que de l'attendre. Jamais ils n'ont dit, ni même écouté et cru cette parole heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Ésaïe 30, 18. Ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Ésaïe 40, 31. Qu'est-elle donc, cette attente? Comment devons-nous attendre? Avant tout, laissez-moi vous dire que ce que vous devez attendre, vous qui êtes croyant, c'est la manifestation de la puissance de l'Esprit qui est déjà en vous. Comme enfant de Dieu, vous avez déjà le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 1-3, 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu en votre corps, et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Galates 4, 6. Avec foi aux paroles de Dieu, commencez donc par cultiver en vous cette paisible assurance, le Saint-Esprit demeure en moi.